Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite une très joyeuse fête des pains sans levain. Nous sommes ici au premier jour de cette fête. Nous avons déjà préparé nos demeures en sortant le levain de chez nous. Et nous allons faire en sorte de vraiment nous concentrer sur le fait d'empêcher au levain de revenir chez nous et de revenir dans nos vies, dans nos régimes alimentaires pendant 7 jours. Pendant le temps de cette fête des pains sans levain, le levain représente quelque chose de spirituel. C'est un symbole physique et pendant le reste de l'année, il n'y a pas de problème d'en manger, bien au contraire. Mais pendant le temps de la fête des pains sans levain, le levain endosse un symbolisme qui est important pour nous à comprendre. Regardons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8 en guise d'introduction à ce sermon. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Ce passage-ci nous montre que la fête des pains sans levain n'est pas une fête seulement de l'Ancien Testament. Il y a une signification que nous ne pouvons comprendre qu'à la lumière du ministère de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, la Pâque, les symbolismes qui sont révélés dans le Nouveau Testament. Et en voici un exemple. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pendant le temps de cette fête, le levain représente la malice et la méchanceté, autrement dit, le péché, la transgression de la voie de Dieu, la loi de Dieu. Et les pains sans levain représentent la pureté et la vérité, c'est-à-dire la soumission à la volonté de Dieu et à sa loi, le fait d'obéir à la volonté et à la loi de Dieu. La Bible nous montre que c'est une lutte. Nous devons mener une lutte contre le péché, parce que le péché est traître, séduisant, et nous sommes engagés dans une lutte spirituelle contre le péché. Et cette fête nous aide à nous concentrer sur cette lutte une fois chaque année pendant cette période de temps. Mais regardons Hébreux chapitre 12 à ce sujet. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 1, Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché peut nous envelopper si facilement. Comme j'ai dit, le péché est traître, séducteur. Et là, quand nous ne faisons pas attention, on peut être happé si on ne fait pas justement très attention. Le verset 4 poursuit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. En luttant contre le péché. Nous sommes véritablement engagés dans une lutte contre le péché qui est la transgression de la loi de Dieu. Le péché nous tente. Nous sommes tentés par cette désobéissance à la loi de Dieu. Et ça, nous allons le lire dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu nous éprouve, parfois, nous passons par des épreuves, mais il ne nous tente pas. Quand on tente, on espère faire chuter la personne. C'est ça la tentation. L'épreuve, c'est pas dans l'espoir de faire chuter quelqu'un. En fait, quand on met quelqu'un à l'épreuve, on espère qu'il va réussir cette épreuve. Mais la tentation, c'est autre chose. C'est pour faire chuter quelqu'un. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous sommes tentés? Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous sommes tentés et attirés par la convoitise. Nos propres convoitises, parce que nous voulons des choses que nous ne devons pas avoir. Pourquoi est-ce que ceci nous arrive quand nous ne voulons pas être tentés, nous ne voulons pas chuter, et pourtant cela nous arrive encore. Pourquoi? C'est à cause de certaines valeurs que nous avons. Nous recherchons certaines choses en tant qu'être humain. Et ce sont ces recherches-là, nos valeurs charnelles, qui amortissent finalement cette tentation. Si nous basons nos décisions sur de fausses valeurs qui nous sont naturelles, eh bien, nous allons finir par trébucher, par tomber et commettre des péchés. Voilà pourquoi ce que je propose aujourd'hui, le temps de ce sermon, c'est de considérer certaines valeurs qui motivent l'être humain et qui nous motivent parfois à notre insu. Si nous ne faisons pas attention, cela peut arriver sans que nous soyons conscients de ce qui arrive. Il est important de comprendre certaines de ces valeurs qui sont, je vais dire, innées à l'être humain normal, charnel. Sans la présence du Saint-Esprit de Dieu et sans l'aide de Dieu, ces choses sont normales à l'être humain. Et nous devons être sur nos gardes contre ces fausses valeurs, ces valeurs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Luc chapitre 16 maintenant, s'il vous plaît. Luc chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Jésus a dit ici, principe important, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Selon la valeur qu'on a, selon ce qui est important à nos yeux, selon ce qui nous attire, ce qui nous motive, eh bien, nous allons finir par servir Dieu ou servir des choses charnelles, des choses physiques, mammon, l'argent, autre façon de le dire. Nous comprenons intellectuellement, spirituellement, que nous ne devons pas avoir certaines valeurs, nous ne devons pas chercher certaines choses, mais nous sommes bien capables, en tant qu'êtres humains, de nous mettre à l'aise avec ces fausses valeurs, parce que, comme j'ai dit, c'est inné à l'être humain. Des valeurs sont des qualités, des choses, des possessions que nous estimons beaucoup. Ce sont des buts qui guident notre activité, qui guident notre direction. Et cela vaut la peine pour nous, donc, d'évaluer notre système de valeurs. Est-ce que nous avons de bonnes valeurs aux yeux de Dieu, ou est-ce que nous avons de mauvaises valeurs aux yeux de Dieu? Je vais diviser ceci en deux parties. Nous allons regarder la première partie aujourd'hui pendant ce sermon. Et le dernier jour de la fête des pains sans levain, je vais regarder le revers de la médaille. Aujourd'hui, nous allons regarder 6 fausses valeurs qui sont très courantes à l'être humain et contre lesquelles nous devons être sur nos gardes. Et lors du dernier jour de la fête des pains sans levain, j'aurai un autre sermon à vous présenter concernant de vraies valeurs, des valeurs qui sont justes devant Dieu, que nous devons chercher à adopter de plus en plus. Mais aujourd'hui, nous allons regarder donc 6 fausses valeurs courantes à l'être humain. Premièrement, les biens matériels, c'est-à-dire la richesse. Le fait d'avoir de l'argent, d'avoir les choses en abondance, c'est une chose dont rêve presque chaque être humain. J'ai lu une statistique cette semaine dans un journal qui expliquait que, d'après un sondage, ils ont demandé aux gens « qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour être vraiment heureux dans votre vie, point de vue matériel ?» Et les gens ont dit « il me faut 30% de plus que ce que j'ai aujourd'hui. » Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que, quel que soit le niveau économique de la personne, des plus pauvres aux plus riches, tout le monde disait qu'ils estimaient à peu près 30% de plus. C'est ce qu'il leur fallait pour vraiment être heureux. C'est normal à l'être humain toujours de chercher à avoir plus, de vouloir avoir encore davantage. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu n'iras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce dernier résume les 6 derniers commandements parmi les 10 commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Peut-être que Jésus percevait une faiblesse chez ce jeune homme, que c'était ça, le point faible était qu'il était très attaché à ses biens, et il en avait en abondance. De toute façon, c'est ce que Jésus lui a dit. Voilà ce qui te manque. Pour te parfaire, pour terminer le travail, voilà ce qu'il faut faire. Mais verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'alla tout triste, car il avait de grands biens. Et manifestement, il n'était pas prêt à s'en séparer. Il tenait vraiment à ses grands biens. Et nous le comprenons, n'est-ce pas? Étant être humain, nous aimons tous être dans l'abondance. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, plusieurs des hommes de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, ont été des hommes très riches, très très riches. Dieu les a abondamment bénis sur le plan matériel. Mais ils savaient garder les vraies valeurs et séparer les vraies valeurs des fausses. Alors que normalement, c'est très difficile. On est très concentré sur ses biens quand on les a en abondance. Et on finit par servir Mammon, comme on a déjà lu, plutôt que Dieu. Il faut vraiment considérer ceci, les biens matériaux. Il est facile pour nous autres, êtres humains, de trouver des raisons pour nous prouver que ceci n'est pas notre problème. Alors que peut-être c'est un problème. Peut-être que nous sommes trop concentrés sur la recherche des biens matériaux. Si vous êtes comme moi, vous vous attrapez des fois à essayer de vous prouver quelque chose. Combien de fois avons-nous calculé la décision de quel cadeau amener à quelqu'un? Ou s'il faut amener un cadeau à telle ou telle occasion ou non? Lorsque nous sommes invités chez quelqu'un pour dîner, est-ce qu'on va amener quelque chose? Et nous calculons selon le niveau de vie de la personne, ses attentes, alors ça va déterminer le choix peut-être de ce que nous allons amener. Si nous pouvons nous comparer favorablement, nous allons être peut-être un peu contents. Ça va bien chez moi, comparé à l'autre. Ou alors nous pouvons être un peu intimidés. Oh là là, il est beaucoup plus aisé que moi. Lui, il en a beaucoup plus que moi. Et nous sentons ou un peu fiers, ou nous pouvons être déçus ou un peu découragés si la comparaison n'est pas en notre faveur. Ce sont des choses que nous faisons sans trop y réfléchir parfois, mais ça montre à quel point les biens matériaux comptent pour nous. Nous pouvons regarder un pays comme l'Inde où il y a un système de caste, des catégories rigoureuses de classe des personnes, et nous pouvons le condamner et dire que c'est mauvais et tous les êtres humains sont tous égaux. Mais dans les pays occidentaux, assez souvent, c'est l'argent qui joue un peu la même fonction. Et selon le montant qu'on a, eh bien, on est dans tel ou tel niveau socio-économique. Ça sépare les gens. L'argent sépare les gens. Il y a un proverbe qui dit, aucun argent n'appartient à celui qui appartient à l'argent. Et c'est vrai. Ce n'est plus tout à fait une possession qu'on a. On est plutôt possédé peut-être par le désir d'en avoir davantage. L'argent peut nous changer, peut changer notre façon de voir le monde, changer notre façon de nous voir, changer notre façon de voir d'autres personnes également. Ça peut créer une malaise chez nous si nous estimons ne pas avoir ce que l'autre a et ça ne semble pas juste, ces inégalités. Il peut avoir un gouffre de désir. Il y a des gens qui ne peuvent pas apprécier ce qu'ils ont tant qu'ils en veulent davantage. Alors, ils passent à côté de ce qu'ils ont, l'abondance peut-être qu'ils ont, parce qu'ils sont toujours à la recherche d'avoir plus. Qu'en est-il de nous? C'est une question à se poser pendant la fête des pains sans levain. Est-ce que nous apprécions pleinement ce que nous avons, ou est-ce que nous portons un regard très souvent vers ce que nous n'avons pas encore, que nous voudrions avoir? Ça, c'est une question à se poser. Jusqu'à quel point sommes-nous matérialistes dans nos vies? Est-ce que ce qui est matériel compte plus dans nos pensées que Dieu et sa voix, par exemple? Ça me rappelle une autre anecdote que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, d'un homme qui a retrouvé un vieil ami qui était devenu riche depuis leur enfance. Et puis l'homme a dit, « Ben, je suis content de voir que l'argent t'a pas changé. » Et son ami a répondu, « En fait, l'argent m'a un peu changé. Hein. Maintenant, les gens me trouvent seulement un peu excentrique, là où avant j'étais impoli. Et on me trouve maintenant formidablement spirituel, là où avant j'avais été grossier. » C'est vrai que les richesses de quelqu'un peuvent changer la façon dont il est traité par d'autres personnes. Et nous comprenons ça. C'est comme ça que le monde fonctionne, le monde dans lequel nous vivons. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Étonnamment moderne, n'est-ce pas? On se chamaille pour l'héritage. Qui va avoir le plus grand part? Est-ce que ça a été divisé justement? Etc. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages? » Ce n'était pas son ministère. Ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Gardez-vous avec soin de toute avarice. Et puis, il donne la parabole après de cet homme qui se confiait dans ses richesses. Et Dieu lui a dit, ben, cette nuit, ta vie te sera demandée. Et puis, toutes ces choses-là dans lesquelles tu te glorifies maintenant, ces choses-là seront pour qui? Et c'est ainsi avec les richesses. Encore une fois, je pose la question, est-ce que nous sommes contents de ce que nous avons? Ou est-ce que nous nous concentrons beaucoup dans la vie sur le moyen d'en avoir davantage? Est-ce que nous sommes plutôt ou plus souvent mécontents de notre situation? Ou est-ce que nous avons appris à être contents dans l'état où nous nous trouvons? C'est une valeur que la Bible nous donne. Il y a un communiste qui a rendu visite au baron de Rothschild une fois, du moins on raconte cette histoire. Le grand banquier était un homme très riche et le communiste disputait l'injustice qu'un homme peut avoir ou puisse avoir tellement d'argent quand il y a des millions d'hommes qui n'en ont pas ou pratiquement pas du tout. Il voulait que des richesses soient distribuées plus équitablement. Alors le baron a appelé son secrétaire, lui a demandé « Aujourd'hui, le montant de ma fortune s'élève à combien ?» Ensuite, il a consulté un livre pour trouver la population de la Terre. Il a fait un simple calcul. Il a rappelé son secrétaire, a dit, « Veuillez donner à ce monsieur 16 centimes, c'est sa part de ma fortune. » Intéressant. Intéressant des deux côtés, n'est-ce pas? On peut réfléchir un peu sur cet exemple. L'argent, les biens matériaux, les richesses physiques, tout cela représente une très grande fausse valeur, pourtant poursuivie par tant de monde, tant de gens sur Terre. On joue à la loto pour essayer d'avoir une fortune. Et si vous suivez les vies de ceux qui ont gagné ces fortunes, eh bien, plus souvent que non, leurs vies deviennent beaucoup plus misérables que ce qu'elles étaient auparavant. Parce que la richesse n'apporte pas le bonheur. On pense que c'est le cas, on rêve que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Et comme nous avons déjà vu, Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et en particulier, il a choisi cette valeur-là. La richesse physique. On ne peut pas poursuivre la fortune et être un vrai serviteur de Dieu. Donc ça, c'est une première fausse valeur et nous devrions nous poser la question, nous examiner à ce sujet pendant cette fête des pains sans levain. Quel est mon rapport avec les biens matériaux? Une deuxième fausse valeur, la beauté, physique. C'est un piège qui a déjà attrapé plus d'un et plus d'une. Il a même attrapé, la beauté a attrapé même un archange. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 11. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, un des passages que nous avons qui explique l'origine de Satan le diable. Comment est-ce que Satan est devenu l'adversaire de Dieu? Ézéchiel chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il était fier de sa beauté. Maintenant, ça c'était le début. Évidemment, le problème est devenu plus profond par la suite. Il a décidé qu'il était capable de détrôner Dieu et de prendre sa place, qu'il méritait mieux que ce que Dieu voulait lui donner. Mais au début, apparemment, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il s'est trouvé impressionnant. Et ça, c'était le début de la fin pour lui. Quand nous sommes très enrobés par notre fascination à être beau ou belle, eh bien, nous sommes sous l'emprise d'une fausse valeur. Parce que la beauté physique ne dure pas. La beauté physique ne dure pas, et de toute manière, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est pas quelque chose que nous avons mérité. Nous n'avons pas mérité d'avoir l'apparence que nous avons, si nous sommes beaux ou belles. C'est un don que Dieu nous a donné. C'est intéressant que c'était un problème pour Absalom également, le fils de David, 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14, verset 25. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel 14, 25. Est-ce que j'ai bien noté? Voilà, c'est ça, oui. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Et lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année où il se rasait parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de 2 cycles d'argent au poids du roi, 2 kilos. 2 kilos de cheveux chaque année. Et le fait que c'est mentionné ici indique que c'était également la semence de ce problème où lui aussi il a voulu détrôner son père et prendre sa place, peut-être tuer son père pour devenir roi à son tour. Sa beauté semble avoir été un facteur qui compliquait cette situation. Certains passent toute leur vie enchaînés à un gros cas de vanité. Quoique, même pour des personnes les plus attrayantes sur l'aspect physique, vient un moment dans la vieillesse où cet éclat n'est plus là, comme ce fut le cas avant. Mais c'est de passage, hein, c'est passager. Et pourtant, vous le savez comme moi, il y a des gens qui vivent que pour ça. Ça c'est vraiment leur grande valeur, c'est le fait d'être apprécié pour leur beauté par d'autres personnes. La beauté comme valeur est vaine parce qu'elle ne peut pas durer. Elle ne va pas durer. Et finalement, nous allons tous mourir et la beauté va complètement disparaître. Ce n'est pas une valeur qui dure. Nous devons faire attention à cela aussi. La beauté est une fausse valeur. Et nous ne voulons pas être motivés par cette fausse valeur de la beauté physique. Question à se poser. à considérer. Est-ce que ça change notre comportement? Est-ce que notre apparence, notre attrait, est-ce que ça change notre façon de traiter les autres? Est-ce que nous estimons que nous ne pouvons aller qu'avec certaines personnes et pas avec d'autres à cause d'une apparence physique? Ça existe dans le monde, nous le savons, mais ça ne devrait pas être trouvé chez des chrétiens. Troisième fausse valeur. Une troisième fausse valeur, la force. La force, qui peut se manifester sous différentes formes, mais au fond de la chose, c'est la force physique, la force de pouvoir s'imposer. Psaume 146. Psaume 146. Verset 1. Psaume 146, verset 1. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Parfois, ici, il n'est pas question simplement d'être fier de sa propre force, mais de s'allier avec quelqu'un d'autre qui est fort. Et ça, nous le voyons dans le monde également. Nous nous allions peut-être à un homme politique qui va pouvoir imposer une valeur que nous avons sur d'autres. Dans le monde en voie du développement, ça se voit quand il y a des hommes forts, un homme fort, il y a des gens qui se rallient à lui parce qu'il veut profiter un peu de sa force politique, militaire, etc. Ça existe. Mais la Bible nous encourage à ne pas mettre de la valeur dans la force et de ne pas nous confier aux princes, aux hommes forts, parce que finalement, ils ne pourraient pas nous sauver. De Corinthiens, chapitre 12. Intéressant de considérer, de réfléchir à ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. De Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Nous sommes très souvent frustrés par nos faiblesses, nous n'arrivons pas à faire quelque chose que nous voulons, et plus nous vieillissons dans la vie, plus nous nous rendons compte, oh, je n'arrive plus à faire cette chose qui pourtant était si facile pour moi à faire avant. Et Paul a une expérience intéressante directement de la part de Dieu. C'est Dieu qui a déterminé une chose pour son bien. De Corinthiens 12, verset 4. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dieu a dit non, il te faut cette faiblesse qui te gêne. C'est pour te rappeler une vue équilibrée sur la vie. Tu as reçu beaucoup de bénédictions que la plupart des hommes n'ont pas reçues, Paul, mais tu vas recevoir aussi une écharde dans la chair, quelque chose qui va te gêner, te déranger. Et c'est pour te rappeler à la réalité. Parfois, nous disons, si seulement je n'avais pas cette faiblesse, les choses iraient bien. Nous voulons être forts. Personne ne veut être faible. Pourtant, Paul a dit, je me glorifierai plus volontiers de mes faiblesses, puisque la volonté de Dieu s'accomplit chez les êtres humains dans la faiblesse. Et quand nous nous rendons compte que nous sommes faibles et que nous acceptons cet état des faits, Dieu peut accomplir beaucoup plus avec nous. Les forts, quel que soit le domaine de la force, politique, même physique, les forts mettent leur confiance dans leur force. très facilement. Pas en Dieu, ça c'est plus difficile. Quand on est fort, on se confie dans sa force. Pas en Dieu. Et ça, c'est mortel pour un chrétien. De se confier en soi plutôt que de se confier en Dieu et en sa force, ça c'est un grave problème qui peut être, comme j'ai dit, qui peut être fatal pour le chrétien. Alors, quelle que soit la force que nous pouvons avoir, physique, ou influence au niveau de là où nous travaillons, dans la société qui nous entoure, quelle que soit cette force que nous pouvons avoir pour imposer une décision ou notre volonté sur d'autres personnes, eh bien, nous devons faire très attention d'abord d'utiliser toute force que nous avons, que nous pourrions avoir, nous devrions utiliser à bon escient, de manière à plaire à Dieu et pour aider d'autres personnes, pour accomplir du bien autour de nous. Nous devons l'utiliser correctement, mais nous ne devons surtout pas nous y fier. Parce que toute force que nous pouvons avoir, nous l'avons parce que Dieu le permet. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Voilà donc une troisième fausse valeur. Une quatrième maintenant. Quatrième fausse valeur, la renommée. La renommée et le statut qui vient avec. 3 Jean chapitre 9. Troisième épître de Jean, verset 9. Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il cherchait tellement à avoir cette position, cette autorité, ce statut, cette renommée dans l'Église qu'il refusait même de recevoir l'apôtre Jean. Ça, c'est grave dans l'Église de Dieu, de refuser de recevoir un apôtre qui avait marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, mais cet homme était tellement aveuglé par son désir de renommée, de position, de statut, qu'il refusait de recevoir l'apôtre Jean. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent la renommée. C'est une grande valeur, une grande motivation pour beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être star de rock? Ou pourquoi est-ce qu'on voudrait être sportif de haut niveau, footballeur? Eh bien, c'est parce que des millions de gens les regardent, les admirent. Ils peuvent gagner de l'argent également, mais c'est cette renommée, le fait d'être vu, le fait d'être reconnu, le fait d'avoir des gens désirer votre signature sur une feuille de papier, désirer votre compagnie. Il y a une passion d'adrénaline qui vient de la renommée, des émotions fortes. C'est une euphorie que recherchent énormément de personnes. C'est ce qu'ils souhaiteraient plus que toute autre chose, c'est d'être connu du grand public. Mais en fait, souvent, ça finit par être une malédiction. Ça détruit la vie de beaucoup de personnes. Ça détruit des mariages, ça détruit des amitiés et ça détruit aussi des leaders qui, à la recherche d'une renommée supplémentaire, ils finissent par commettre de graves erreurs, commettre des crimes pour avoir ce poste ou cette position qu'ils désirent avoir et ça peut complètement les détruire. Et ça, nous le voyons dans les journaux très régulièrement. Être connu, être admiré, être le centre d'attention n'est pas la voie de l'humilité. Et c'est ce que nous devons rechercher. C'est un désir de la nature humaine. La nature humaine aime être bien vu par les autres, admiré par d'autres personnes. Mais c'est le contraire de la voie de Dieu. Il y a des gens qui cherchent énormément la renommée. Est-ce que c'est une motivation pour nous? Le désir d'avoir une bonne réputation auprès des autres, au travail, à l'école, même à l'Église. Ça existe. Là, il y a un cas avec Diotrephe, hein, qui même dans l'Église de Dieu, ce qu'il souhaitait avoir, c'est une position de responsabilité, un poste reconnu. Je suis heureux de dire que je n'ai pas vu ça récemment dans l'Église de Dieu. Je crois que nous avons acquis une certaine, d'abord une humilité, mais aussi nous avons grandi, il y a une maturité qui est là spirituellement maintenant. Je vois ça beaucoup plus rarement. Mais dans le passé, ça s'est vu dans l'Église. On voyait des hommes qui manœuvraient les choses parce que c'était très clair. Ils visaient à être ordonnés à un poste de quelque chose. Ils visaient à être le premier parmi eux, comme dit Utrecht. Comme j'ai dit, heureusement, ça fait un moment que je ne le vois plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas quelque part, mais au moins ce n'est pas visible comme ce fut le cas avant. Mais la nature humaine qui sème et qui est naturellement orgueilleux, eh bien, il va chercher cette renommée. J'ai lu une citation de Marlon Brando, l'acteur américain, qui a dit à propos du fait d'être très connu par le monde quand il est devenu vedette, il a dit « Il y a une chose étrange qui arrive. Des gens demandent votre avis sur des questions où vous n'avez aucune connaissance et vous commencez à leur répondre. Vous commencez à donner votre avis, même si vous n'y savez strictement rien. C'est parce que ça nous flatte. Ça nous flatte d'avoir des gens qui viennent demander notre avis, demander ce que nous pensons, comment est-ce que nous voyons la chose. Et c'est clair, nous entendons des vedettes de cinéma qui donnent leurs avis sur des choses où ils ne savent pas plus que n'importe qui d'autre, mais nous écoutons leur avis quand même, parce qu'ils sont connus, ils ont la renommée. Satan ne pouvait pas faire face à sa beauté et sa renommée. Il avait une pose de responsabilité. Il était apparemment l'ange avec les ailes déployées autour du trône de Dieu. Il y avait peu d'anges qui avaient une position aussi importante et ça lui a tourné la tête, finalement. La renommée, vraiment, n'est rien. C'est une illusion seulement. Une illusion qui a une durée très déterminée et qui finira, la renommée physique de ce monde présent finira par disparaître et on n'en parlera plus. C'est pour ça que c'est une fausse valeur. Ça ne va pas durer. Et finalement, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de durable sur le plan spirituel. Nous n'allons pas emporter avec nous une renommée quelconque que nous pouvons avoir maintenant. Non, la renommée selon Dieu, c'est tout autre chose que ce que nous pouvons avoir dans cette vie. Voilà donc une quatrième fausse valeur, poursuivie par beaucoup de monde. La renommée, le statut. Cinquième, le pouvoir. Le pouvoir, cinquième fausse valeur. Le pouvoir, et comme j'ai dit, c'est comme pour la force, le pouvoir peut prendre différentes formes. Le pouvoir de dicter les décisions d'autrui, de prendre les décisions au nom de plusieurs personnes, d'imposer son avis sur d'autres. Ça, c'est une chose que les gens aiment bien poursuivre également. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Verset 1. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Quand nous avons une certaine pouvoir, certaine force, eh bien nous devons, j'ai mentionné tout à l'heure, nous devons vraiment tout faire pour l'utiliser pour le bien d'autrui. Mais encore une fois, l'être humain a plutôt tendance à l'utiliser pour son propre plaisir, de se faire servir. Jésus a expliqué ça plusieurs fois. Qui est plus grand, celui qui sert ou celui qui se fait servir à table? Pourtant, moi, je suis venu comme celui qui sert. Il avait tout pouvoir en tant que Dieu. Et il était prêt à céder tout cela, à utiliser le pouvoir qu'il avait pour le bien-être d'autrui, pour notre bien-être, pour nous ouvrir la voie vers la vie éternelle. Regardons aussi Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, verset 28. Voici un homme qui a dû apprendre une leçon très dure parce qu'il se vantait de son pouvoir et de sa grandeur. Daniel chapitre 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplis pour le roi Nebuchadnezzar. Il a reçu un avertissement, mais il n'a pas prêté attention. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Une leçon très importante que le roi Nebuchadnezzar a dû apprendre. Il s'est vanté de son pouvoir. Dieu lui a montré que son pouvoir était vraiment néant. Tout pouvoir que nous puissions avoir, Dieu peut nous le enlever comme ça, dans un instant, comme ce fut le cas pour ce grand roi. Quels sont les pouvoirs que les gens recherchent aujourd'hui? J'ai déjà mentionné politique, économique. Ils souhaitent grimper l'échelle dans la société afin d'avoir l'autorité sur d'autres personnes. Un autre niveau dans l'Église, ça pourrait être nos employés, ça pourrait être nos amis peut-être, nous cherchons à avoir une influence sur eux pour leur dire quoi faire, nos enfants peut-être, nos frères et sœurs dans l'Église. Il y a parfois une manipulation qui se joue pour essayer d'obliger les autres à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, pas forcément ce qui est la meilleure chose pour ces autres personnes, mais parce que nous souhaitons nous imposer. Je me souviens une fois, j'étais dans une congrégation en Afrique francophone, il y a longtemps de cela, une trentaine d'années sans doute maintenant. Et puis, il y avait un homme d'un certain âge, plus âgé que moi, j'étais relativement jeune à l'époque. Et puis, il m'a annoncé, quand je suis arrivé, « Vous êtes obligé de faire ce que je dis parce que je suis plus âgé que vous. » Et j'ai dû lui expliquer que non, ce n'est pas ça. Honorer ceux qui sont plus âgés, d'accord, oui. Mais leur obéir, quand ce n'est pas de la famille ou autre, il n'y a pas de lien, non, ce n'est pas ce que enseigne la Bible. Il avait une fausse idée, mais il voulait s'imposer, il voulait imposer son pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et ça attire la nature humaine. Nous aimons avoir le pouvoir, et c'est une fausse valeur. Sixième et dernière fausse valeur que nous allons regarder aujourd'hui, l'intelligence. L'intelligence. D'être vif d'esprit, pouvoir accumuler des faits, avoir de l'éducation, peut-être un diplôme ou deux, être très rapide, perspicace dans ses réflexions. La connaissance, c'est très valable, c'est très prisé par les gens du monde aujourd'hui. Nous admirons ceux qui sont intelligents, mais la Bible dit que la connaissance enfle. La connaissance enfle. Nous aimons parfois, la nature humaine aime montrer sa supériorité, qu'on est plus rapide ou plus calé que les autres, qu'on est un cran au-dessus. Et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui sidèrent les autres par des paroles dures pour montrer qu'ils sont plus vifs d'esprit, plus intelligents. Ils peuvent réduire au silence par un mot. Et c'est une façon de s'imposer. Et c'est une valeur recherchée par beaucoup de gens dans le monde. Qu'en est-il de nous? Si Dieu nous a donné un peu plus d'intelligence que la moyenne, est-ce que nous en sommes fiers? Ou est-ce que nous reconnaissons simplement que c'est un don que Dieu nous a donné? Et nous devons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Verset 2. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre intelligence, nous pensons que ce que nous allons faire, c'est juste. C'est la bonne chose à faire. Et parfois, quand ça nous pète au visage, après, on nous pose la question, mais pourquoi est-ce que tu aurais fait une chose aussi bête? Puis on n'a pas de réponse. Ben, il semblait une bonne idée sur le coup. Nous nous rendons compte après coup que toutes les voies, toutes nos voies ne sont pas les bonnes voies, ne vont pas nous faire arriver là où nous voulons aller. Nous voulons naturellement faire confiance à nous-mêmes et peut-être encore plus ceux qui sont un peu plus intelligents que la moyenne. Pourtant, la Bible nous dit que c'est une très mauvaise idée. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. En parlant de l'humanité en général, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, etc. Mais ils se croient intelligents. Ils croient dans leur propre sens. Mais Dieu dit que nos sens, en tant qu'êtres humains, nos sens sont réprouvés. Darby le traduit, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. La version synodale, à un esprit pervers. La version crampon, à leur intelligence pervertie. L'intelligence peut être pervertie. Il y a eu des gens qui ont été très intelligents, mais ils ont utilisé leur intelligence pour le mal. Beaucoup de dictateurs, d'hommes forts dans le monde aujourd'hui qui règnent d'une poigne de fer sur des pays, ce sont des hommes intelligents, rusés, mais ils se servent de leur intelligence, de leur capacité pour leur propre bien, non pas pour le bien-être des autres, bien au contraire. Ils asservissent d'autres personnes afin de prendre la prééminence. L'intelligence de la nature humaine ou de l'esprit charnel est une intelligence pervertie. Et si nous mettons beaucoup de valeur à cela, eh bien, nous serons un jour la personne la plus intelligente au cimetière. Parce que c'est là où tous les hommes intelligents finissent là, en fin de compte, comme tous les autres, L'intelligence, le fait d'être plus calé, plus rapide à l'esprit que d'autres personnes, c'est une valeur pour beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, qui sont fiers de leur intelligence. Et en fait, la Bible nous dit que si nous nous fions dans notre propre intelligence, eh bien, nous n'allons pas avoir le résultat escompté. Nous devons nous fier plutôt en l'Éternel. Qu'est-ce que toutes ces fausses valeurs ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces fausses valeurs? Hébreux chapitre 11, chapitre 1, pardon, verset 11. Hébreux chapitre 1, verset 11. Hébreux chapitre 1, verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu est éternel et ses valeurs sont éternelles également. Mais une chose qu'ont toutes ces fausses valeurs en commun, c'est qu'elles sont passagères. Elles ne vont pas durer dans le temps. Elles sont égocentriques. Elles sont insatiables. Elles sont ces fausses valeurs aussi des béquilles qui laissent sans force lorsqu'ils sont enlevés. Et beaucoup de personnes se penchent sur ces béquilles pendant toute leur vie. L'une ou l'autre ou plusieurs, mais finalement ça laisse sans force et il n'y a rien de durable qui en résulte. Psaume 73, regardons deux passages dans les psaumes. Psaume 73. Verset 1, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Les méchants recherchent des fausses valeurs. Ils sont motivés par les choses que nous venons de voir. Et pendant un certain temps, ça a l'air de bien aller. À tel point que David trouvait la chose très difficile. Il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Le corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Il semble que tout va bien pour ces vedettes de cinéma, ces stars de rock, ces hommes ou femmes politiques, ces hommes très riches dans le monde des affaires qui ont tout pouvoir, ce dictateur ici, ce président là-bas. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Peut-être que ça vous est arrivé, ça nous est arrivé à un moment donné, de regarder, de dire, moi j'essaie de faire les choses comme il faut, et c'est dur. Et je regarde ces pécheurs, et il semble que tout va bien pour eux. Verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, et les met en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. On récolte ce que l'on sème. Si on sème vers des fausses valeurs, on va récolter des résultats de ces fausses valeurs, et c'est la mort, souvent accompagnée de souffrances avant d'arriver à la mort. Psaume 37, on a regardé 73, maintenant regardons, inversons les chiffres et regardons le psaume 37. Psaume 37 à partir du verset 1. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et on pourrait continuer dans ce psaume également. Quand on cherche les valeurs de Dieu, là, ça dure. Quand on se penche sur ces béquilles de fausses valeurs humaines qui sont innées en nous, la recherche de ces choses est innée, eh bien, les résultats, en fin de compte, sont mauvais. Ils ne sont pas ce que nous escomptons. Ces valeurs sont toutes de fausses valeurs. Pas fausse en soi, parce que Dieu les a toutes. Il a le pouvoir, il a la force, il a la beauté, Dieu les a toutes. Mais il n'y place pas une grande importance. Dieu ne mesure pas sa valeur ou la valeur de quelqu'un d'autre par ces choses-là. Bien au contraire. Il ne méprise pas ceux qui ne les ont pas, et lui-même, il n'essaie pas d'en avoir davantage. Impossible de toute manière. Mais pour l'homme, c'est autrement. Nous avons tendance à ne pas les avoir, pas tant que l'on voudrait, mais de les vouloir beaucoup. Nous y mettons naturellement une grande importance. Nous mesurons notre valeur par leur présence ou par leur absence en tant qu'être humain. Nous estimons ceux qui les ont. Nous pouvons regarder du bout du nez ceux qui ne les ont pas. Nous luttons, nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie et l'argent à leur poursuite, malgré le fait que ce sont ces choses qui nous pousseraient vers le péché et finalement la destruction. Elles peuvent être ces fausses valeurs comme une maladie, un cancer qui nous avale en entier. Si vous y pensez, vous verrez que Dieu nous permet d'en avoir un peu au moins à différents moments dans la vie. Peut-être c'est un peu comme un vaccin pour nous aider à apprendre la leçon que nous ne devons pas suivre, nous donner à ces fausses valeurs. Nous voulons apprendre à utiliser ces choses convenablement, à la gloire et à l'honneur de Dieu qui nous les donne. Si nous continuons de baser notre système de valeurs sur ces choses tellement courantes dans le monde, eh bien, elles vont devenir de faux dieux, parce que nous allons finir par les servir, par nous concentrer sur le fait de les avoir. Dieu veut nous aider à les sortir de nos vies. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne la fête des pains sans levain d'année en année, pour réfléchir à ces choses, pour nous examiner, pour nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont mes valeurs fondamentales de base? Qu'est-ce qui me motive jour après jour? Si vous cherchez un sujet de méditation cette semaine, et j'espère que nous allons le faire pendant la fête des pains sans levain, je vais vous proposer un petit devoir à faire avant le dernier jour de la fête des pains sans levain. Réfléchissez au sujet de vraies valeurs, les valeurs selon Dieu. Il serait intéressant de composer une liste de valeurs qui sont des valeurs, de vraies valeurs aux yeux de Dieu. Les idées, des buts qui doivent nous motiver dans nos vies. Et au dernier jour de la fête, je vous proposerai un sermon avec certaines de ces réponses. Mais pour terminer, revenons à Jacques chapitre 1, là où nous avons commencé, Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par ses propres fausses valeurs. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Veillons à cela, frères et sœurs, pendant cette semaine de la fête des pains sans levain, et veillons à cela également tout au long de nos vies, parce que c'est l'œuvre de toute une vie de remplacer les fausses valeurs du monde par les vraies valeurs de Dieu.